Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Merci à tous et bonsoir. Ravi de vous recevoir, vraiment d'être présent dans Team Dugas. C'est un bonheur. 18h04, vous le savez, c'est le moment de Team Dugas. Nous sommes dans la dernière semaine et oui, je sais que d'émotion, Jean-Louis va pleurer, bien évidemment, sur mon épaule, comme d'habitude. Ça fait 4 ans de toute façon qu'il pleure. Donc, une fois de plus, une fois de moins, c'est pas bien grave. Bonsoir, mon Jean-Louis, comment
salut.
Ça va?
Salut Dugas, salut tout le monde.
Ça va, mon poulet?
Ouais, très bien.
Passé un bon week-end?
Bah ouais, ouais. Mais c'est vrai, c'est la dernière semaine quand même, ça fait bizarre.
Bah, ouais. Ouais, ça fait bizarre.
Pour quelqu'un qui est sensible comme toi, dis donc.
Oui, mais on part sur d'autres choses. Il y a d'autres projets, il y a d'autres choses dans la vie. C'était une belle histoire. On s'est éclaté pendant 4 ans, on s'est bien amusé.
Bien top. Sûr, bien sûr.
Voilà, donc c'est que des bons souvenirs.
Exactement.
Voilà. Franck Leboeuf, Eric Dimeco également. Bonsoir les copains.
Salut Christophe.
Salut les gars, salut Dugas. Salut Jean-Louis, salut Franck.
Salut Eric.
Alors, et salut Jean-Louis.
Eric, Eric, aucune émotion. C'est un mec dur, tu vois. C'est un mec.
Ah si, il est content.
Bah lui, il a tellement vu passer.
Ouais, t'as raison.
Non, il est toujours là. Non, mais moi, d'ailleurs, la dernière, je la ferai pas parce que ça va être insupportable pour moi. J'ai peur de craquer.
On va trouver un bon sujet pour la dernière.
Et j'aurais pas connu cette image-là de moi juste avant
ouais,
que tu partes.
C'est clair.
Alors, Dugas, sache qu'on va être attentif aux annonces du remaniement. Je me demande si Franck ouais. Leboeuf est pas en train de gratter un ministère.
Et dis pas ça
comme
comment ça,
il est ouais. habillé.
Ah ouais. Et puis, ah oui. Vu son résultat par les élections municipales.
Bah c'est ouais, possible.
C'était une feinte.
À la culture, Francky.
Non. Non, il y a Jean-Marc Dumonté là qui postule.
Qui
Jean-Marc bon, il faut suivre un peu les trucs de culture en même temps.
Là, je peux vous dire, Francky, il y a le costume, trois pièces.
Arriver en Bentley au ministère, c'est moyen quand même, non?
Ouais.
Enfin, changer de bagnole. Hein.
Je la vendrai, je te promets.
Bon, évidemment, on vous tient au courant hein, dès qu'on a les infos du remaniement. Ça va tomber avant
20h. Ouais, et je vous rassure, hein, je n'attends rien du tout.
Les Français sont rassurés.
Surtout pour eux.
On y va donc pour la dernière semaine de Team Dugas. Alors, je vous le dis quand même, pendant 4 ans, vous avez aimé Dugas, vous l'avez détesté aussi, peut-être, parfois.
Souvent, et bien sûr. Même moi, je me suis détesté, c'est dire.
J'ai l'impression même que vous avez aimé détester Dugas. Eh bien, vous avez jusqu'à jeudi pour venir lui dire au 32-16. N'hésitez pas, venez dire si vous le regretterez ou non. On vous donnera la parole.
Les noms d'oiseaux sont autorisés ou pas?
Bien sûr. Enfin, bon, on verra.
De toute façon, Rossignol, Merle, voilà, des trucs comme ça, on a le droit.
Tout à fait.
Ouais, fait.
Les débats, en tout cas, donc on revient sur les débats qui ont marqué l'histoire de l'émission. On continue ça cette semaine. À 19h30, le chambrage de Neymar fait-il partie du foot? Ça a été un moment fort pendant Team Dugas. On y reviendra donc tout à l'heure. À 19h, la Ligue 1 va-t-elle trop loin sur la gestion des jeunes entre transferts, gros salaires? On a l'impression que parfois ça va trop loin. On donnera la parole notamment à un spécialiste de la question. À 18h30, la Liga est-elle en train de tourner pour le Real? Grâce à l'arbitrage, c'est ce qu'il dit en Espagne. On aura vos points de vue tout à l'heure. C'est ce qui a énervé effectivement Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real. On va commencer par Laurent Blanc. Des infos transferts que va pouvoir compléter Mohamed Bouafsi qui est avec nous. Salut Mohamed.
Salut Jean-Louis, salut Francky, Mohamed. Salut Dugas, salut Eric.
Salut maman. Bon.
Laurent Blanc qui serait en contact avec Valence. C'est pourquoi Fred Hermel est également avec nous, notre correspondant en Espagne. Salut Fred.
Ah, quelle émotion.
Champion.
Non, je parle de la dernière semaine de Dugas. Je vais vous révéler un truc secret, les amis.
Oui.
Pour que les auditeurs sachent qui est Dugas. Moi, la première fois où j'ai eu un vrai contact avec Dugas, c'était un déjeuner, très bonne viande, chez SQD à Madrid. On était quatre. Il y avait Jean-Louis, il y avait notre producteur, Antoine. Et puis, Dugas, on se connaissait pas. Il était venu à Madrid pour faire l'interview de Zizou. Et puis, à un moment, il fait semblant d'aller faire pipi. Puis, il va payer la note derrière sans rien dire. Voilà, c'est ça, Dugas.
Magnifique.
Ouais. Et ben, je vous dire que moi, le premier contact, je l'ai trouvé très bien. Voilà, et on avait bien bouffé avec entrée, plat, dessert, fromage et tout.
À quoi se résume un homme si tu rencontres ça vite, à payer l'addition?
Ben ouais. Non mais tu sais, moi je connais des mecs qui payent jamais, qui invitent jamais.
Des noms. Dernière semaine de type du gars, tu peux y aller, lâche-toi. Ben.
Et j'espère que Laurent Blanc, s'il vient en Espagne, il paiera son repas aussi.
Oh bah sûrement. Oui.
Je voulais t'impressionner, je savais, j'avais entendu parler de toi, Fred Hermel en Espagne, quand même, c'est pareil, surtout à Madrid. Donc, j'avais
entendu parler de toi.
Je voulais te faire forte impression, c'est pour ça.
Franchement, elle avait été très forte.
Alors, Laurent Blanc, qui serait donc en contact avec Valence. Fred, tu vas nous parler de la situation du club valencien dans une seconde. Mais donc, cette piste pour l'ancien entraîneur du PSG, qu'en pensez-vous? 32-16, doit-il, selon vous, est-ce que c'est le moment de trouver un banc absolument cet été? Ou est-ce que sinon, ça l'éloignerait trop longtemps des terrains? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Mohamed, déjà les infos sur le dossier.
Alors Jean-Louis, nos confrères de l'équipe disent que Laurent Blanc est en discussion avec le club de Valence. On a essayé de se renseigner nous à RMC Sport cet après-midi. On nous dit qu'il est dans la shortlist du club espagnol. C'est souvent le cas d'ailleurs, on le regrette pour Laurent Blanc. Il est souvent dans la shortlist, mais souvent ça ne se concrétise pas. Et que depuis quelques semaines, quelques mois, il a quand même baissé ses attentes avec les différents clubs. Quand il est parti du PSG il y a 4 années, il voulait absolument un top club européen. On a beaucoup parlé de lui du côté de Manchester United, du côté de l'Inter. On a parlé de lui en Espagne. Son nom était même sorti du côté du FC Barcelone. Finalement, rien. Il y a un an et demi, il avait là aussi changé, évolué. Il avait discuté avec la sélection marocaine. Ça ne s'était pas fait, mais plutôt du côté de Laurent Blanc à ce moment-là. Cet été, on s'en souvient, il voulait rejoindre l'Olympique Lyonnais. L'OL avait fait le choix de choisir Rudy Garcia. Ça ne s'était pas fait au tout dernier moment. Après l'oral face à Jean-Michel Aulas, le choix avait été porté sur Rudy Garcia. Là, c'est différent. On nous explique qu'il est dans la shortlist pour Valence. Mais il y a une information très importante, messieurs, c'est le choix de Laurent Blanc. Depuis quelques semaines, il a rejoint Jorge Mendes, l'un des meilleurs agents du monde, et le mot meilleur dans ce cas-là est réel, l'un des plus influents, alors certains diront, avec Pini Zahavi, Jonathan Barnett et Mino Raiola. Ce changement avec Jorge Mendes est très important, ça montre bien que Laurent Blanc veut revenir vraiment dans la danse et que c'est le moment et qu'il estime que cet été il ne doit pas rater ce cap.
Dugas, c'est le moment?
Oh, c'était déjà le moment il y a longtemps.
À chaque fois, c'était le moment, en fait.
Ouais. Oui, voilà, il est dans une shortlist. Après, moi, je suis contre l'idée. On dit Laurent Blanc, il trouve pas de club parce que ses prétentions sont trop importantes. Non. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il arrive dans un club, il évalue les difficultés du club. Pour exemple, à Lyon, lorsqu'il dit je viens avec 2, 3 ou 4, j'allais dire associés, mais c'est pas ça, 4 mecs adjoints du staff, c'est parce qu'il sait que le chemin va être long et compliqué et qu'il a besoin de certains talents, de certaines qualités autour de lui pour proposer quelque chose. C'est comme un mec qui est pas marié ou une nana à 40-45 ans et on dit elle est trop difficile. Mais enfin bon, t'as raison d'être
difficile.
C'est mon
cas, moi. C'est mon cas.
Non mais t'as raison d'être difficile. Ouais. Tu vas pas demain matin revoir tes prétentions à la baisse pour aller dans le mur, pour échouer. Au bout d'un moment, il y a des espèces de choses que toi tu ressens dans ta capacité à entraîner, à mener un groupe, à faire du management. Et il y a d'autres... Il y a des choses que tu sais faire et d'autres un petit peu moins. Donc il faut savoir bien t'entourer, bien t'encadrer et pour essayer d'apporter la meilleure performance possible. Et c'est ce qui a été un petit peu le cas du côté de l'Olympique Lyonnais. Et là, les dirigeants n'ont pas compris. Ils ont pris ça comme quelqu'un qui veut trop de choses, qui a des prétentions trop importantes, qui... Non,
mais tu crois pas. Il n'y a pas que ça aussi. Avant de donner la parole aux autres, ça peut être un élément qui va faire évoluer votre analyse. Mais du gars, le problème aussi de Laurent Blanc, c'est que depuis quelques années, notamment depuis son départ du PSG, il souffre d'une mauvaise image dans tous les échanges officieux que certains peuvent avoir dans les clubs. Il y a des gens, et ça c'est un petit peu malsain, et vous l'avez déjà entendu, il faut le dire aussi à nos auditeurs, qui disent que Laurent Blanc ne travaille pas assez ou que c'est Gasset qui fait tout. Et ça, il en a souffert. Et c'est sans doute faux, même à 90% faux, mais il en a souffert parce qu'il y a des gens qui ne lui veulent pas du bien et ces gens-là conseillent des dirigeants de club, des agents, des managers et ça, c'est pas simple.
En tout cas, je pense que c'est important qu'il trouve un club là maintenant. Je pense que c'est nécessaire s'il a vraiment envie d'embrasser cette carrière, enfin de la continuer. En tout cas, je pense que c'est important. On entend des chiffres aussi. C'est vrai que toi tu dis qu'il est peut-être pas, les gens disent qu'il est trop gourmand et que c'est pas vrai. On entend quand même de sacrés chiffres pour un quelqu'un qui n'a pas entraîné depuis 4 ans. Après, moi je dis, ça dépend le projet que tu as. Quelle est son envie en tant qu'entraîneur? Est-ce que c'est d'entraîner que des équipes qui sont déjà remplies de gens qui ont envie de juste de gagner des titres? Ou est-ce que tu as envie de former quelque chose? Quand je vois Ancelotti à Everton, je trouve le projet intéressant. Il a surpris tout le monde, mais il est très intéressant parce que tu veux quelqu'un d'énorme qui veut créer quelque chose avec un club qui se noie un petit peu dans le championnat. Donc il y a Valence a gagné il y a pas longtemps la
l'Europa
League. Je trouve que c'est un bon projet.
Même
il faut qu'il y aille.
Tableau de Ligue.
Il faut qu'il montre que et surtout tourne le coup à des préjugés exactement. Merci. Qui dirait que Paris c'était facile, Bordeaux à l'époque c'était peut-être facile et qu'il est capable de remonter une équipe parce que Valence ça a été une grande équipe qui a gagné l'Europa League plusieurs fois d'affilée, je crois.
Alors justement, Fred, parle-nous de la situation de Valence. On aura l'avis d'Eric juste après.
Bon, alors déjà, par rapport à Mendes, Mendes est un très proche du propriétaire de Singapour, enfin originaire de Singapour, de Valence, qui s'appelle Peter Lim. Ouais. Il a une grosse influence sur les choix sportifs. C'est notamment lui qui avait placé comme entraîneur Nuno Espirito Santo. Donc c'est pas, voilà, être dans l'écurie Mendes, comme disait Momo, ça change beaucoup de choses, notamment et précisément à Valence. Vous savez, dans les faubourgs de Scapin, il y a cette réflexion magnifique, mais que diable allait-il donc faire dans cette galère? Moi, si j'étais Laurent Blanc, j'irais pas à Valence. C'est du n'importe quoi, la gestion de ce club. C'est du n'importe quoi.
Ah ouais.
Mais c'est terrible. C'est-à-dire que dès que, il y a 2 ans et demi, ils avaient confié.
Non.
Ils avaient confié la direction du club, c'est-à-dire les gens de Singapour qui connaissent absolument rien au foot, le propriétaire avait parlé avec Javier Tebas en disant qu'est-ce que je dois faire, etc. Tebas, il dit mais prends des Espagnols, prends quelqu'un qui sait diriger le club. Et ils avaient pris l'ancien président de Majorque qui s'appelait Matteo Alemany. Et là, ça commençait à marcher. Et à un moment, les propriétaires, c'est normal, c'est eux qui mettent l'argent, veulent intervenir dans les choix sportifs, etc. Et ça se barre mal, quoi. Voilà.
Mais t'as apporté la réponse. Et là, j'ai Antoine Varnier, mon producteur, qui me dit, mais il faut quand même qu'il entraîne. Mais non, mais à bout d'un moment, il va pas aller dans un truc où ça pue. Tu vas pas entraîner
dans 6 mois.
Il faut qu'il aille dans un vrai projet, même si c'est un club, entre guillemets, au nom moins huppé, parce que Valence, ça reste un grand nom du football, un nom moins huppé sur un vrai projet. Si ça pue comme ça, il faut pas qu'il aille à Valence.
Il faut pas oublier une chose, c'est que Valence a quand même joué la Ligue des Champions cette saison.
Ouais.
C'est un club qui. Ils ont par exemple viré.
Il peut aussi réussir dans ce contexte, Fred.
Mais à un moment, il y a des décisions qui sont prises à Singapour sans queue ni tête, qui font que même un beau projet sportif. Mais par exemple, vous savez pourquoi ils ont viré Marcelino Garcia Toral? Parce que Peter Lim avait dit, on lâche la coupe, on mise que sur les qualifications pour Ligue des Champions. Il joue la coupe, il la gagne, et dit, il n'a pas respecté mes ordres, je le vire.
Wow.
Mais ça, c'est une réalité.
Il
faut voir où il peut se mettre. Jean-Louis, le patron, copatron de cette émission, me demande la situation de Valence. Je vais pas vous dire, c'est génial, etc. Le club en lui-même, le stade et tout, c'est l'une des places fortes du football en Espagne. Mais la direction de ce club, c'est du n'importe quoi.
Mais alors, ça voudrait dire que Mendes propose à Laurent Blanc le seul club où il faut pas aller. C'est-à-dire qu'il a pas d'autre chose. Est-ce que Laurent Blanc, sa cote est tellement descendue que Mendes n'a pas d'autre chose à lui proposer?
Est-ce que c'est pas moyen aussi? Parce qu'on parle de club en Angleterre, d'utiliser le nom de Valence. Le message que je viens de recevoir à l'instant de Valence, est-ce que c'est pas aussi une manœuvre de Mendes pour essayer de redorer un peu le blason de Laurent Blanc en disant il y a Valence qui le veut et le placer ailleurs? C'est le message que je viens de recevoir d'un de mes contacts.
Alors,
à Valence.
Eric, qu'est-ce que tu penses de la situation?
La situation, on avait un doute. Alors, quand il est parti du PSG, Laurent a eu des exigences importantes, et c'est normal, quand il y a eu l'équipe de France et le PSG, d'avoir des exigences importantes. Le problème, c'est que les années et les mois passent, et à un moment donné, il faut bosser. Là, la bonne nouvelle du jour, finalement, dans tout ça, c'est qu'il a pris Mendes comme manager, puisque c'est quand même un des agents qui fait la plus le bouton dans le monde du football. Et quand tu veux trouver un club, il vaut mieux passer entre les mains de ces 2 ou 3 managers qui gèrent un petit peu tous les clubs, voire tous les grands clubs. Alors qu'il aille à Valence, moi j'écoute Fred et on va lui faire confiance que ce club-là est peut-être particulier à gérer. Mais pour moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que Valence est quand même un grand nom du football espagnol. Moi, à ce stade, chaque fois que je vais là-bas, c'est quand même un monument. Cette ville, je veux dire, ça pue le foot, quoi. C'est un championnat, ça joue. Lolo faisait bien jouer ses équipes.
Dica, ça serait génial pour lui.
Voilà, maintenant, si c'est pas celui-là, si c'est un autre, le tout, c'est qu'il faut que Laurent entraîne maintenant. Voilà, il faut que Laurent entraîne pour que on arrête de délirer sur il est trop exigeant, il pense à autre chose, et Laurent Blanc, il a envie d'entraîner. Après, il a un peu les responsabilités sur l'image qui lui a été collé
qui renvoie, oui, bien sûr. Il n'a jamais rien fait pour la modifier.
J'en parlais tout à l'heure pendant le Moscato Show. Regarde, alors je veux pas comparer les coachs, mais je compare juste les attitudes. Laurent, quand il a arrêté d'entraîner, on l'a pratiquement plus vu. On savait qu'il était la tête ailleurs au niveau du football, qu'il avait mis de se ressourcer et tout. Un garçon comme Christophe Galtier, quand il s'arrête à Saint-Étienne, on le voit dans les tribunes à Lille, on le voit dans les tribunes à Marseille, on le voit dans les tribunes à Monaco.
Dans Mourinho, les médias.
Mourinho dans les médias. Mourinho, on l'a vu à Lille, en Angleterre, voir certains matchs. Les mecs qui sont entre Allegri.
À Madrid,
Allegri.
C'est pour le poste là, de Zizou.
À Madrid aussi. Allegri, on l'a vu.
Eric est même un des plus grands entraîneurs au monde qui est Mourinho. Il le fait. Dès qu'il a plus de club, il se montre pour toi.
Et on sait, connaissant Laurent comme on le connaît, qu'il n'est pas à l'aise avec les médias, ça ne lui plaît pas, c'est une corvée pour lui, et qu'il ne va pas faire semblant d'aller au stade alors qu'il peut voir le match à la télé. Oui. Mais malheureusement, dans ce milieu d'image et de communication...
C'est important,
oui. Et oui, parce qu'en plus, du coup maintenant, il y a les cons qui ont répété qu'ils préféraient aller jouer au golf qu'entraîner.
Quand tu ne parles pas, c'est les autres qui parlent à ta place.
Ouais, après, les réflexions françaises sur son image en Espagne, ça n'existe pas.
Tant mieux.
Toutes ces rumeurs, oui, c'est l'adjoint qui fait le truc. Du tout en Espagne. Ici, on a l'image,
Fred,
l'ancien sélectionneur, l'ancien parisien, l'ancien joueur du Barça et tout. C'est quelqu'un qui a une bonne image en Espagne, attention.
Et pourquoi, à un moment donné, Barça, qui avait la possibilité de prendre un nouvel entraîneur, prend Quique Setién? Et pourquoi il y a la possibilité de Quique Setién, si jamais il devait se faire limoger, s'il ne gagnait pas le championnat, Laurent Blanc ne serait pas appelé à Barcelone? Est-ce qu'il a joué à Barcelone? Est-ce que ce serait une possibilité ou pas?
Ouais, après Quique Setién, il fallait prendre un espagnol, c'était en cours de saison, quelqu'un qui parle très mal espagnol, qui est connu du truc,
enfin voilà, il fallait 6 mois sans problème.
Et c'est voilà, tu vois, c'était, et puis c'est facile à virer.
Il y a Xavi qui arrive l'année prochaine, donc
bah voilà, c'est facile. Après excusez-moi les gars, Quique Setién,
ouais. Enfin au bout d'un moment, le football va pas toujours très très bien quand tu vois ce qui se passe à Arsenal, quand tu vois qu'ils ont pris à Barcelone, qu'il y a quand même des clubs, ils ont beau t'expliquer ou m'expliquer que Laurent Blanc il travaille pas assez ou il répond pas au téléphone ou il aime jouer au golf, quand je vois le nombre de pitres qui sont entraîneurs parfois de grands clubs, me dis que quand même les dirigeants au bout d'un moment c'est tout, ils virent les entraîneurs, c'est bien eux qui feraient mieux d'être virés, parce que il faut des formations pour tout, mais formation pour être président ou être actionnaire ça n'existe pas. Et les mecs qui s'achètent une danseuse, ils font n'importe quoi, ils font que des conneries, ils mettent en danger leur club, ils font n'importe quoi, et
parce que souvent ils veulent faire les équipes eux-mêmes, c'est ça le drame, c'est pour ça qu'à un moment ou un autre,
il faut que Laurent Blanc, il y a au bout d'un moment il faut qu'il travaille, s'il a pas l'obligation de travailler. Eh bien écoute, mais s'il faut attendre encore sur un projet, mais peut-être moins UP, j'en sais rien, peut-être un truc moins.
Ça va faire que baisser à chaque fois. Plus il attend.
Ça va faire plus il attend.
Si ton objectif c'est pas l'argent, tu prends un club de Ligue 1 moins UP, mais où t'as vraiment les clés du camion, où tu peux faire un vrai projet.
Alors vous qui le connaissez bien, vous pensez qu'il sera assez passionné pour aller prendre un club de Ligue 1 de milieu de tableau?
Ça c'est autre chose.
Ça y a que lui qui le sait. Après
pour avoir échangé beaucoup avec les gens qui travaillent avec lui, il veut un club UP, il veut
tous les entraîneurs veulent
ça, c'est vrai.
Il estime, voilà, après ce qu'il a fait à Bordeaux c'était super, et il a tout créé avec Jean-Louis Gasset, le goût à un moment ou un autre, le fait d'avoir arrêté depuis maintenant 3-4 ans, peut-être que ça lui a redonné le goût de repartir sur un projet comme ça.
Le rendez-vous manqué c'est Lyon, ça collait, c'était le haut tableau de Ligue 1, c'était un projet, il aurait pu avoir la main, etc.
C'était des champions.
C'est terrible de se dire que il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à la finale, et que même en finale, il a raté cette marche face à Rudy Garcia qui sortait d'un échec terrible. Donc c'est aussi ça qui,
que la part de séduction est trop importante dans le choix en fait, parce que Garcia c'est comme ça qu'il.
Oui, mais les autres clubs européens se renseignent aussi sur la situation de ces finales d'entraîneurs.
C'est sûr que s'ils appellent Noël Le Graët, c'est sûr que ça ne doit pas aider.
Si la différence c'est parce que tu prends Mendes, je me demande le crédit que tu peux donner à tous les entraîneurs. C'est-à-dire que tu deviens entraîneur d'un grand club parce que tu as un bon agent, parce que tu as celui qui dirige le football. C'est un autre problème.
Francky, tu découvres pas le
football. Non, je découvre pas le football. Je préviens les auditeurs maintenant, en disant qu'on s'étonne pas d'avoir des pipes, comme il disait Christophe, parce qu'ils sont simplement avec le bon agent.
Ou ils présentent bien, ou dans la com.
Je vois pas pourquoi ça t'étonne, Francky.
Non, c'est parce qu'il m'étonne.
Pendant des années, il a fait sans agent, il a vu que rien n'arrivait, donc il se dit bon, si tout le monde fait ça, de passer par un agent, je vais faire la même chose.
Oui, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité qui fait peur. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la qualité qu'un entraîneur a fait. On prend juste le mec à la bonne relation, c'est-à-dire le bon agent. Oui. Et on n'en a rien à foutre de ses qualités.
Le problème, c'est les présidents qui vont faire leur choix en se basant sur les agents.
C'est le copain du copain, parce qu'à Valence, comme dit Fred, le Mendes, c'est le copain du président.
Attends, Neville a été entraîneur, t'imagines, parce qu'il avait un business. business en Angleterre avec Peter Lim, le propriétaire.
Ah, c'est une catastrophe.
Non, je veux dire, il y a des choix qui sont faits par moi qui n'ont absolument rien à voir avec l'objectif sportif.
On va donner la parole à Eric, supporter du PSG. Ce n'est pas Eric Dimeco. Bonsoir, Eric.
Bonsoir, toute l'équipe.
Bonsoir, Eric. Salut, Eric. Bienvenue.
Toi, t'as envie de revoir Laurent Blanc sur un banc?
Ah oui, parce que pour moi, c'est du gâchis. C'est du gâchis qu'il soit pas là. C'est un monsieur.
Du gâchis.
Même si j'ai pas tout apprécié, mais pour moi, c'est un des meilleurs qu'on ait eu au PSG ces dernières années. On avait un beau jeu, on jouait bien. Sa seule erreur, c'est une composition d'équipe et qui, pour moi, était le résultat d'un non-soutien de la direction par l'affaire Aurier, l'espèce de demi-joueur qui lui a manqué de respect. C'est un grand entraîneur pour moi. Il a fait champion Bordeaux.
Mais tu sais que t'as raison, Eric, tu sais que t'as raison, il a raté. On lui reproche ta carrière au Paris Saint-Germain sur ce match-là. Et en équipe de France, c'est sur un match aussi raté. Il s'est fait aussi
avec
sortir.
Avec la même compo.
C'était contre l'Espagne.
C'était contre l'Espagne qui est champion d'ailleurs après.
Deux arrières droits, Lyon.
Exactement.
Oui. Non, mais c'est vrai.
Ça fait cher. Ça coûte cher.
Jean-Luc, encore mal.
Je peux juste me permettre une chose.
Oui.
Hein, parce que c'était ma première chez toi, du gars.
Oui.
Donc, j'ai attendu la dernière semaine. D'habitude, je t'écoute en replay parce que je dors. Je voulais te remercier pour ces 4 années. Parce que toi et ton compère qui est avec toi aujourd'hui, Eric Dimeco, vous êtes des joueurs que j'ai vus au parc, que j'ai sifflé comme un malade. Mais en tant que consultant, vous êtes des top.
C'est gentil. Voilà. Jean-Louis, on a bien fait de garder les meilleurs auditeurs pour la fin, tu vois.
Mais Eric, mais pourquoi tu dors à 18h? Tu fais quoi dans la vie?
Parce que je suis routier international et je fais de l'alimentaire, donc je roule la nuit et je dors la journée.
Ah, bravo.
D'accord,
hein.
Très bien.
Et ben, alors, bonjour, Eric, qui vous écoute.
Je m'étais dit que cette semaine, je me réveillerai pour écouter en direct en espérant passer.
Et ben, super,
c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci pour tes compliments.
Voilà. Et bonne continuation du gars.
Merci.
On sait jamais, peut-être un de ces quatre. Et surtout, Eric Dimeco ne change jamais rien.
Ah ouais, il est relou quand même.
Ça va être plus facile quand Dugas sera plus là, il me saoulera plus.
et la bise à Franck, parce que bon, je l'ai quand même vu jouer aussi. Mais...
Ah bah quand même. Ah, c'est gentil. Bon, et moi, j'ai pas été sifflé.
On sent le pâté ou quoi?
Non, j'ai pas été sifflé.
Toi, ne te sifflais pas, donc on te fait pas de
compliments. Non, je l'ai pas sifflé. Je l'ai même vu un jour à Meaux maltraiter mon équipe, donc voilà.
Ça, c'est allé il y a très longtemps.
Bon, Eric, tu croiseras peut-être Dugas sur la route aussi, parce qu'il a prévu de louer un camping-car, de faire le tour de la France. Ça va être génial.
J'ai peut-être plus de chances de le voir au Maroc.
Salut Eric,
merci beaucoup.
Au revoir, bonne soirée.
Merci pour ton message.
Au revoir.
Merci Mohamed Bouafsi.
Merci vous, messieurs.
Bonne soirée. Fred Hermel reste avec nous parce qu'on va parler Zidane, Real, arbitrage, tout ce qui le passionne. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h30, Tim Dugas continue avec Franck Leboeuf, avec Eric Dimeco et Jean-Louis Tour. Ça va être le moment de parler de Zinedine Zidane qui est très en colère.
C'est pour ça que Fred Hermel est
Fred Hermel
avec
également,
nous,
pardon.
Bien sûr, t'inquiète pas. T'as payé l'addition, tu peux tout te permettre maintenant.
Même si vous oubliez.
À 18h45. Bah, c'est aussi la dernière semaine pour le journal moyen.
Ah oui! Salut les gars! Notre dernier lundi ensemble. Ça fait chose.
Grand défenseur de Zidane aussi. Hein,
mais c'est même pas défenseur à ce niveau-là, Fred.
C'est pire que moi, de toute façon, je crois.
Peut-être, c'est même sûr. Des informations à 18h45 sur la probable ou pas revente de l'OM.
Oui.
C'est dans le journal moyen. J'ai des infos, j'ai des documents à vous fournir. Vous allez devoir les décrypter. Que je n'ai absolument rien compris.
Très bien, merci Adrien, à tout à l'heure. Alors, l'Espagne donc et la lutte pour le titre. Donc Fred est toujours avec nous. Le Real qui a fait un nouveau pas vers le titre en gagnant à Bilbao ce week-end. Le Barça s'est imposé à Villarreal avec un but superbe de Griezmann. Hein.
Ah ouais.
Dugas, t'as vu ça?
Super match en plus.
Quel toucher de balle là. Effectivement, on pourra y revenir.
On n'a pas vu le
évidemment.
Barça comme ça.
Ouais. Oui, c'est longtemps qu'on n'a pas vu aussi les trois de devant s'entendre comme ça. Et donc toujours 4 points d'avance pour le Real à 4 journées de la fin. Au moment où, en Espagne, on évoque beaucoup l'arbitrage. On a l'impression, en Espagne, Fred, tu vas nous le confirmer ou non, que le Real est avantagé. Alors, est-ce que cette fin de saison se joue sur des coups de sifflet? 32-16 pour en parler. Ça a mis Zidane en colère, Fred.
Oui, parce que ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que le Real Madrid fait un parcours exceptionnel depuis le retour du confinement. 7 matchs, 7 victoires. C'est une équipe très solide. Les joueurs sont dans un état physique absolu, excellent. Extraordinaire travail de Grégory Dupont. Et puis, du côté de Barcelone, comme ils sentent qu'ils perdent la Liga, ça avait déjà commencé par Piqué. Hier, c'est le président qui a pris le micro à la télé, alors que c'était pas. C'est lui qui a demandé à parler à la télé espagnole, Movistar, qui diffusait le match, pour se plaindre de l'arbitrage. En fait, on reproche au VAR de faire son travail. Et donc, ça énerve Zizou. Oui, il y a des pénalties en faveur du Real, comme l'autre jour contre Retafe. Bah, je pense que c'est clair pour tout le monde qu'il y avait bien pénalty.
Bah, oui. Elle n'est pas là, la question.
Il est crocheté. Hier, il y a un pénalty sifflé sur Marcelo. Il lui marche dessus, un défenseur lui marche sur le pied. L'image est claire. C'est le VAR qui corrige, qui appelle. L'arbitre n'avait pas vu. C'est le VAR qui appelle et dit il y a un truc qui va voir l'image. Il y a péno, et on essaye de comparer ça, en tout cas les détracteurs de Zidane et du Real en général essayent de comparer ça avec quelques minutes plus tard
Ramos
qui recule. Alors Raúl Garcia déjà il est hors jeu dans la surface, la balle est à 15 mètres, elle va être centrée, Ramos recule, ne voit pas Raúl Garcia et lui marche dessus. Je pense que c'est tellement évident.
Oui, hors jeu, il n'y a pas de ballon qui lui a envoyé, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de
hors-jeu. La notion de hors-jeu ne rentre pas en ligne.
Non, elle ne rentre pas, mais de toute façon, quand le ballon il va partir, il sera hors-jeu. Donc, enfin bref.
Mais
de toute façon,
c'est pas parce que tu es en position de hors-jeu que tu peux tout te permettre sur un joueur.
Non, mais le truc en plus, c'est que tu as le droit de mettre un coup de pied. En plus, il était
là aussi. Non, mais là aussi, c'est pas que l'arbitre l'a pas vu. C'est que le VAR a regardé l'image et a dit il n'y a rien. Il n'y a pas de pénalty.
Il est là, donc,
alors attends, je laisse-moi terminer. Donc, la question était posée à Zidane et ça l'énerve énormément. Parce que c'est pas la première fois. Rappelez-vous, il y a eu parfois des gens qui disaient que en Ligue des Champions, ils gagnent 3 Ligue des Champions de suite, c'est grâce aux arbitres. Ça l'énerve parce que lui, il sait tout le boulot qu'il y a derrière. Et puis, simplement, je vais terminer là-dessus avant de vous passer la parole. Il y a un club qui est anti-Réal. C'est pas le Barça, le grand club anti-Réal. C'est l'Atlético de Madrid. Quand on connaît le foot espagnol, on sait comment ça se passe. Il y a un grand entraîneur anti-Réal. Il s'appelle Diego Pablo Simeone. Ce matin, en conférence de presse, on lui a posé exactement la même question que tu viens de me poser, mon cher Jean-Louis. Et la réponse de Simeone, c'est « Il faut arrêter de dire ces conneries-là. Le VAR fait bien son travail. Le Real a plus de pénalty parce qu'il attaque plus que les autres. » Fin du débat.
Alors, pardon, si je peux me permettre.
Bien sûr.
Moi, j'ai regardé attentivement ce match-là. Et d'abord, il faut respecter les joueurs du Real Madrid. Je trouve que c'est pas un football très léché, mais par contre, il y a une osmose dans cette équipe. Et je suis d'accord avec toi. Ça fonctionne super bien physiquement. Ils sont très très bien. Et sans doute qu'ils méritent de gagner le championnat, surtout ce qu'on voit avec Barcelone à part hier. Mais je suis d'accord avec toi qu'en plus il fait penalty parce que le mec, je vois pas pourquoi ce défenseur n'envoie pas le ballon alors qu'il arrive à Marcelo dans les tribunes. Il veut protéger, donc il crée obstruction et marche sur le pied de Marcelo, penalty.
Il fait l'erreur.
Contact, penalty. Ouais. Par contre, deux minutes après, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Peu importe si c'est, puisqu'on considère que la faute du premier défenseur sur Marcelo, c'était involontaire. Le marcher sur le pied de Ramos sur Raúl Garcia, c'est involontaire.
En reculant avec un ballon à 15 mètres.
Peu importe, il sait Ramos où il est. Enfin, tu me la racontes pas, moi, Ramos, il sait exactement ce qu'il fait et où il le fait, comment il le fait dans la surface de réparation. Moi, j'ai vu la faute. Je te dis que je suis arbitre, je demande la VAR et je siffle penalty.
Il a pas sifflé pénalty.
Ouais, ben c'est la VAR où il dormait. Et c'est ça la problématique. La problématique, je pense que les gens ne contestent pas le fait que Madrid soit meilleur, que Madrid.
Admettons qu'il y a erreur là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a des gens en Espagne, et on sait comment ça marche, et notamment du côté de Barcelone, ils savent qu'ils vont perdre la Liga. Ils voient très bien que la seule manière. Et c'est Piqué qui est très intelligent. Ça fait 15 jours qu'il a lancé le débat là-dessus, en disant, de toute façon, on peut pas gagner la Liga. Au bout de deux matchs, comme le Real avait gagné ces deux matchs, il disait déjà, on peut pas gagner la Liga, le Real va pas perdre de points, etc. Il avait lancé le truc. Mais c'est le problème, c'est de se servir. Alors peut-être, si tu le dis toi, moi je ne considère pas. Et les arbitres en Espagne, les anciens arbitres qui sont des consultants, tous ont dit qu'on ne pouvait pas siffler de pénalty de Ramos. Mais même s'il y a une erreur là-dessus, c'est qu'aujourd'hui on se sert de cette possible erreur pour remettre en cause les 7 victoires du Real Madrid. Et c'est alors, ça qui énerve vraiment Zizou.
Duga, qu'est-ce que t'en penses?
Non mais j'en pense, je comprends l'énervement de Zizou, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment t'as l'impression qu'il a gagné 3 Ligues des Champions, c'est grâce aux arbitres, qu'il va être champion d'Espagne, c'est grâce aux arbitres. Bon, je comprends l'énervement. Je suis d'accord avec Fred et Francky sur l'extrême solidité de cette défense du Real Madrid qui est quand même assez impressionnante. Voilà, après voilà, que le Barça puisse se plaindre, que d'autres équipes puissent se plaindre. Écoute, ça fait partie du jeu. Le Barça fait une saison quand même assez moyenne en championnat. Hormis hier où c'est vrai, c'était excellent. On se demande pourquoi il joue pas plus souvent comme ça. Voilà, l'Atlético aussi fait une bonne saison, mais il y a rien d'extraordinaire. Je pense qu'ils ont aussi le sentiment de perdre cette saison sur une équipe qui a
qui est pas forcément plus forte qu'eux, qui n'a pas forcément montré plus de choses qu'eux, mais qui a une espèce de force intérieure, une espèce de force, une espèce de régularité. Et puis tu sais comme c'est, on prépare aussi la saison prochaine, les prochains coups de sifflet qu'il pourrait y avoir contre ou pour le Real Madrid. Voilà, bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie des polémiques qu'il y a souvent en Espagne. Il faut les remplir les journaux oui, en Espagne. Donc bon, voilà, ça fait partie du jeu. Je peux comprendre par moment qu'il y ait des coups de sifflet qui peuvent surprendre. Voilà, moi je préfère qu'on se plaigne quand il n'y a pas des par exemple sur le Paris Saint-Germain, sur le traitement qu'a eu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je trouvais que c'était très très dur, c'est sur les dernières éliminations qu'il y avait eu.
Bah, la remontée de Barcelone, c'est l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'arbitrage.
Plus que sur quelques sifflets, coups de sifflet qu'il y a eu pour le Real. Sincèrement, ils étaient en plus déjà au dessus. Enfin, voilà, moi, ça me choque. Je n'ai pas l'impression que ça change véritablement l'issue finale des choses. Vraiment.
Tu sais pourquoi ça énerve Zizou? Surtout, c'est parce que au niveau de l'organisation du calendrier des derniers matchs, le Real considère qu'il n'est pas du tout avantagé. Par exemple, le Real a souvent moins de repos que son adversaire. Tu vois, alors que le Real là, va avoir une semaine. Mais par exemple, tu vois, ils ont joué jeudi soir, ils ont terminé à minuit, et ils ont joué à Bilbao à 14h avec la chaleur et le taux d'humidité. Tu vois, donc et Zizou. Les journalistes pro Madrid ont essayé de lancer Zizou là-dessus en disant le calendrier est défavorable, vous avez moins d'heures. Il dit, il s'est jamais plaint. Il refuse, il dit, moi j'ai pas d'excuses, c'est comme ça, on a moins de repos et alors on s'adapte. Et ce qui l'énerve, c'est que lui il se plaint jamais quand au même au niveau du club on considère du côté du Real Madrid qu'il y a un désavantage dans l'organisation du calendrier, il se plaint jamais, mais par contre les autres se plaignent toujours contre le Real et c'est ça qui l'énerve personnellement.
Eric, tu te dis qu'il y a une vraie affaire ou que ça fait partie du folklore Espagne?
Le folklore c'est l'histoire du football toute génération, tout pays confondu finalement.
Oh, c'est pas dans tous les pays que ça prend autant de proportions quand même.
Alors après les proportions c'est par rapport à la culture foot.
L'exagération espagnole.
Et voilà, c'est en Italie il y a eu pareil, rappelez-vous quand même, avec des débats houleux dans l'hémicycle de chez les députés. Enfin, quand il y a eu l'histoire avec la Juve et tout ça, c'était chaud. Donc, mais enfin, moi, j'ai tout le temps souvenir des équipes qui dominent un championnat et on dit toujours qu'elles sont avantagées. Mais comme le dit Simeone, tout à l'heure, on a fait le débat dans le Moscato Show, j'ai dit la même chose. Quand tu domines ton championnat, c'est-à-dire que tu as plus le ballon, que tu es plus dans la surface adverse, eh bien, c'est comme par hasard, tu as plus de coups francs et de pénalty. C'est bizarre, ça. C'est l'histoire
de pousser les derniers pénaltys, c'est les latéraux. C'est Calvaral et Marcelo. Parce qu'il y a une vraie tactique de déborder l'adversaire créé par Zizou. Quoi. Donc,
Et là où on voit que c'est un jeu quand même national, c'est que, Fred, tu me corriges si j'ai une bêtise, mais on a eu l'impression que Piqué a eu des déclarations en disant cette Liga, de façon, elle est pour le Real, c'est impossible de faire autrement, sous-entendu, les arbitres sont avec eux, alors qu'il y avait très peu de polémiques à ce moment-là pour le Real.
Bien sûr, c'est lui qui l'a lancé. C'est lui qui l'a lancé.
Et dis-moi, ça veut dire ces gestes là avec l'ordinateur?
On ne sait pas. D'accord. Parce que la question lui a été posée après.
Oui,
de toute façon, quand Piqué est comme ça, il sait qu'il a perdu la Liga, donc il est très fort. Il sait parfaitement manipuler.
Mais il y a encore un gros match contre Grenade, non, pour le Real, la 36e journée.
Mais là,
tu crois que c'est lancé?
Jamais dans l'histoire de la Liga, une équipe ayant 4 points d'avance à 4 journées de la fin n'a perdu. D'accord. Jamais.
Quand tu détournes le débat sur l'arbitrage, c'est un moyen aussi de te défausser de tes erreurs de ta saison moyenne, parce que depuis
le Barça a perdu 6 points quand même depuis le retour.
Ils ont été lamentables au Panama.
Le Barça hier qui se remet à l'endroit, alors tout le monde dit c'est la compo.
Non, enfin, c'est la tactique en fait.
La tactique, voilà. Enfin, Messi derrière deux attaquants, donc Griezmann et Suarez.
Bravo.
C'est que ça pour vous?
Non, il y a Vidal et Sergio Roberto sur les côtés aussi qui font le travail défensif que les trois ne font pas.
Mais c'est que tactique selon toi, Francky? Vraiment
ils avaient envie de jouer déjà tous les trois, ils ont montré qu'ils avaient envie de jouer, mais je pense que il y avait cette tactique et cette possibilité de combler les déficits défensifs des trois.
Et puis il y avait l'équipe idéale en face.
Oui, c'est ça.
Qui ouvre le jeu. Voilà, parce que le problème du Barça, c'est quand il y a une équipe bien fermée en face, quoi.
Ouais,
on l'a vu contre l'Atlético, par exemple. Quoi. Ils ont souffert, il n'est pas brillant du tout. Donc c'est vrai que pour ça, Villarreal a été idéal. Après, il faut reconnaître que Griezmann avait vraiment. Il a eu l'attitude positive en disant je suis titulaire, j'ai ma chance, j'y vais, quoi. Ouais. Il a fait un très bon match, hein, considéré par la presse catalane comme peut-être son meilleur match depuis qu'il est au Barça.
Est-ce que c'est pas Messi qui a voulu vraiment jouer avec lui, qui a laissé l'espace, parce qu'on le voit jouer dans l'axe dès le début du match. Il jouait pas sur le côté gauche.
Non, il jouait pas sur le côté gauche. Après, il avait une certaine liberté aussi par rapport à. Ouais. Moi, j'ai trouvé quand même que Suarez était un petit peu plus en pointe et dans son rôle. Et puis, Griezmann, un peu plus de mobilité derrière, avec Messi juste derrière les deux, quoi.
Quand ils veulent jouer tous les deux ensemble, ça passait pas mal.
Bah, ça, c'est évident que là. Alors après, c'est vrai que j'ai reçu des milliers d'insultes quand même sur Twitter.
Ah, oui.
Parce que Messi a fait sa troisième passe décisive à Griezmann depuis le début de la saison. Donc,
alors, est-ce que c'est vraiment une passe décisive ce qu'il fait hier? Parce que c'est
la talonnade.
Oui, mais est-ce que c'est le geste de Messi? Et après, il y a le lob de Griezmann.
Le plus beau,
c'est incroyable. Voilà, c'est ça. On peut pas dire que le but soit fait après la talonnade de Messi.
C'est le plus beau, mais c'est le pas décisif quand même. Il amène trois défenseurs avec lui. Il laisse beaucoup de liberté avec son geste. Il laisse le temps à Griezmann de après, il y a le talent de Griezmann,
bien sûr. Mais c'est pas Messi tout seul face au gardien qui donne la balle à Griezmann quand même. Donc, mais bon. D'un coup, il paraît que tout s'est réglé.
Si que des passes décisives comme ça, Jérôme Rontaine, il serait à 4 et il serait pas, je sais pas combien, il aurait pas le record de la saison. Hein. Ah oui.
On embrasse Jérôme, qui va redevenir entraîneur adjoint du Plessis Robinson en régional. Voilà, ça fait partie des infos de la journée.
Quelle belle nouvelle pour le football français.
Adjoint, il est adjoint.
Mais il sera adjoint.
Tu veux dire que l'année prochaine, il sera remplaçant à la radio et aussi adjoint. Il sera adjoint à la radio et adjoint au PC Robinson.
Il est titulaire à la télé, au commentaire des matchs. Il est titulaire à la radio aussi, comme tout.
Mais là, il y a Eric, c'est numéro 1, c'est Eric, c'est pas lui.
Mais c'est adjoint plutôt. C'est un adjoint plutôt.
Numéro 2.
Mais Tony non plus.
Quel faux derrière.
Quel beau diplomate.
Avec le départ de Duga, ça va être ça, l'un des enseignements. Il n'y aura plus de hiérarchie nulle part. Voilà.
C'est beau.
Duga, c'était le numéro 1, le mieux payé. Ça, maintenant, tout ça, c'est
Eric. En fait, c'est une communauté hippie maintenant.
Voilà.
C'est ça.
C'est ça.
Tout le monde s'aime.
C'est les écolos, tout le monde s'aime.
Tout le monde à égalité. Fred, merci beaucoup.
Salut, merci, les amis.
On te laisse là-dessus.
Salut, Fredo.
Bonne soirée. On te retrouve tout à l'heure dans le RMC Football Show et dans l'After. Et on revient dans un instant avec donc le journal moyen et ses infos sur la vente de l'OM. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Duga.
Tout RMC en podcast.
En podcast. Sur l'appli RMC.
Alors évidemment, sur le hashtag RMC Live, on a les supporters du Barça qui se manifestent en disant « Jamais le VAR n'a été défavorable au Real ». Rappelez-vous, la mini-poussette de Gueye sur Marcelo en Ligue des Champions.
Tous les supporters de Barça, avec ce qui s'est passé sur la remontada, on ne veut pas les entendre. Oui. On ne veut plus les entendre.
Après,
c'est bon,
remonte un peu la remontada.
Oui, mais justement, mais c'est encore pour 10 ans. Voilà, il y a une telle marge, il y en a encore pour 10 ans. C'est bon, stop.
Bon, d'accord, si tu veux.
Bah oui, non, mais c'est bon, oui, bien sûr. Ils s'en prennent qu'à leurs joueurs avec l'effectif qu'ils ont, le Barça et le jeu, la saison qu'ils ont fait. Arrête, un peu de hauteur, justement, qu'ils soient au-dessus de ça. Sincèrement, non. Ils s'en prennent à Dembélé qui est blessé, qu'ils s'en prennent à. Voilà, mais pas
Sétienne,
pas
là, enfin, qui a mis.
Sétienne, par
qui
exemple.
Qui a mis 4 mois à trouver la tactique.
Voilà, exactement.
C'est un peu ça. Hein. Ouais. Hier, tu dis, mais pourquoi il n'a pas fait avant
Alors, il l'aurait un peu fait avant, mais voilà, ça a vraiment bien fonctionné. On verra sur le prochain match. S'il remet la même compo, donc.
RMC au 732-16.
75 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, 18h47. Eric Dimeco, Franck Leboeuf, Jean-Louis Tour sont bien là. C'est le moment du journal moyen. Mais à partir de 19h, nous allons parler de des jeunes de Ligue 1. Est-ce qu'on les traite bien ou pas? C'est bien ça, moi, Jean-Louis.
Oui, et puis on va se poser la question entre les transferts précoces, les gros salaires donnés très jeunes. Est-ce que la Ligue 1 va trop loin sur la gestion des jeunes? On a l'impression qu'il ne faut pas rater le potentiel, la future grosse vente, etc. On en parlera avec l'un des animateurs du compte Twitter Espoir du Football. Il est passionné par la question des jeunes. Il sera avec nous donc tout à l'heure. Tout de suite, c'est le journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Duga aujourd'hui sur RMC. Selon nos informations, Christophe Dugarry ne fera pas partie du gouvernement de Jean Castex. Il aurait refusé. Imagine, il y a un ministère du golf qui se crée.
Il a du temps libre à partir de jeudi, donc pourquoi pas.
Des infos sur l'éventuel rachat de l'OM, donc des infos sérieuses, hein, communication, et puis un peu de bonne musique. Vous êtes prêts, les copains? Ah, vous avez parlé de Laurent Blanc à 18h. Oui. Il a écouté le débat, il a fait le 32-16, il est avec nous. Laurent,
Vous êtes réellement en discussion avec Valence en Espagne?
Non, mais non. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Non. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans.
Le fameux pain à moudre. J'insiste, je me permets d'insister, Laurent, on est chez Dugas, vous le connaissez bien. C'est votre priorité ou pas, Valence?
Forcément qu'il y aura des priorités, mais voilà. Ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire?
À peu près. Vous écoutez RMC, c'est le 348e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction de RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
J'ai dit Super Moscato Show, encore une fois, ça va pas.
Qu'est-ce
ça.
Qui te fait confondre en fait? C'est quand même très différent.
La coupe de cheveux.
Dugas et Vincent.
Les cheveux. La coupe de cheveux. Peut-être, ouais. Peut-être. J'ai écouté RMC ce week-end. Finale de la Coupe d'Allemagne. Bayern, Leverkusen, Bayern Munich. Arnaud Valadon est au commentaire. Avec Arnaud, on a toujours des infos très intéressantes pendant les matchs sur un joueur de Leverkusen. C'était intéressant.
C'est la coupe, allez un but, pourquoi pas de Kaya Vert, la pépite, ou de Moussa Diaby, l'ancien parisien qui est titulaire, ou de l'ancien marseillais. Il y en a un dans la compo, est-ce que vous l'avez?
L'ancien marseillais.
La compo de Leverkusen.
Charles Aranguiz.
Ah. Il a joué à l'OM?
Non, il n'a pas joué à l'OM.
Non, il était annoncé à l'OM. Ah, ouais. Je me souviens.
Ah, d'accord. Ah, donc l'ancienne recrue qui n'est pas venue.
Merci, c'est intéressant, les soirées Coupe d'Allemagne sur AMC. On se régale le samedi soir. Sans transition.
Un bon joueur, hein, il aurait été bien à Marseille. Hein.
Il était annoncé à l'OM, il y avait des contacts, c'est ça, Jean-Louis? Ouais. T'as des infos sur l'OM?
Ah, sur le transfert, je sais pas, mais sur le niveau d'Aranguiz, oui, c'est un bon petit joueur.
Parce que moi, j'ai des infos sur l'OM.
Ah, très bien.
Il va falloir gagner.
Allant, droite,
alors.
Au bout.
Puis c'est plus des gamins maintenant.
Il va falloir mettre des sous.
Ce sont des.
Wow! Ce sont des messieurs. Eric, toi qui es Marseillais, Eric Dimeco, je te pose la question en direct. Est-ce que tu as des nouvelles, toi, du projet de reprise de l'OM par Mourad Boudjelal et ses associés?
Non.
Depuis la semaine dernière, depuis le Moscato Show, justement, pas où de... on a eu Mourad.
No news.
Pas de nouvelles, hein? Dugas, toi, avec tes antennes marseillaises, Francky, ancien Marseillais également.
Rien du tout.
Rien du tout. Jean-Louis, ancien journaliste. Non, toujours pas. Bon.
Ancien journaliste.
Mourad.
C'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai mis ça.
Mourad est silencieux depuis quelques jours, mais attention, il nous laisse quand même des messages sur Twitter, des messages codés. Il fonctionne comme ça, Mourad. Vous allez m'aider à décrypter ces messages. Il y a eu 2 tweets samedi. Donc Mourad a retweeté un message d'un supporter de l'OM. Retweeter, c'est partager. En général, quand on retweet, on valide plus ou moins le message, d'accord? Le supporter s'appelle Lucky Luciano. Il parle avec des copains à lui sur Twitter et il écrit: frérot, je pense que ça négocie déjà, mais que les médias ne savent rien comme d'habitude et que les dirigeants envoient des démentis exprès pour être tranquille. Voilà le message que Mourad Boudjelal, le porte-voix du projet de rachat de l'OM, a retweeté samedi. Ça analyse fait... de Tim Dugas.
Ça fait pas très sérieux quand même.
Je ne sais pas.
Voilà. Enfin, je sais pas si tu fais.
Comment, il y a quelqu'un qui l'appelle frérot
Non, le supporter parlait à un collègue supporter. Mourad a vu le message parce qu'il était plus ou moins dans la discussion et il a partagé. Voilà. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ce genre de retweet?
Mais tu demandes à des mecs qui a zéro réseaux sociaux.
Ouais.
Moi je trouve pas ça très sérieux quand il y a un truc important, une vente importante, t'as pas un mec qui met sur Twitter retweeter notre truc. Enfin, je sais pas moi. Tout le monde le fait discrètement.
Il a déjà envoyé des messages sérieux, par exemple pour du rugby, par ce biais-là, Mourad, des messages codés. Deuxième message codé, toujours samedi, Mourad publie une chanson. Parce qu'il communique souvent comme ça, selon sa pensée du moment, il envoie une chanson comme ça sur Twitter. Alors il s'agit les jeunes disent d'un featuring.
C'est pas Osiris.
Là pour l'instant, j'ai pas le message codé. Hein.
Osiris.
C'est un trio. Un trio entre trois artistes.
La bamba.
Ouais. C'est un trio de trois artistes, oui, bien sûr. Ouais.
NASA. Attends. Ouais. NASA.
Oui.
Dadju.
Oui.
Et Aya Nakamura. Aya Nakamura, bien connu.
Bien sûr.
DJ. Normalement, il y a un message. Quand Mourad publie un tweet, il y a un message.
C'est NASA. Nazaretien ou.
Non, NASA.
C'est le grand NASA.
Alors, je vais vous balancer le refrain. Daniel Torres, le réalisateur, va vous balancer le refrain. Et là, il y a le message codé et on analyse. Je vérifie.
Et
le titre de la chanson, moi, je vérifie. Il faut en faire une interprétation. C'est la règle de Mourad Boudjelal. C'était samedi, depuis pas de nouvelles.
Il est bizarre un peu ce Mourad.
Je sais pas. Qu'est-ce que ça vous inspire ça?
C'était. Ah bah là, je suis sans voix là.
C'est quelqu'un d'intelligent, Mourad Boudjelal.
Il n'y a pas une sorte de. On vérifie les comptes, on vérifie ce qui se passe à la DNACG, je sais pas.
Il faut faire une chanson et.
Laissez-nous travailler, on vérifie tout avant de faire une propale. Non,
je sais pas. On est obligé de te répondre, André.
En tout cas, il communique et
vivement qu'il vienne à l'OM juste pour qu'on rigole.
Ouais, si tu veux des réponses intelligentes, pose des questions intelligentes. T'as plus de chance.
C'est Mourad qui joue peut-être avec nous, avec les médias, avec toi, Dugas.
La chanson est sympa.
Et peut-être qu'il avait juste envie d'écouter. Il avait pas du tout. Il avait juste envie d'écouter cette chanson.
Ouais, sympa cette chanson.
Et il y a quoi à la radio qui a décidé qu'il fallait interpréter la chanson du jour.
Un mec, c'est prêt pour un analyste, journaliste.
En tout cas, Franck aime bien. Tu peux monter, Daniel, s'il te plaît.
Ouais, j'aime bien.
Il y a toujours une nouvelle frappe, on ne peut pas s'habituer.
Non, j'aime le rythme, j'ai pas dit que j'aimais les paroles non plus.
Adrien, tu as entendu ce qu'il a dit là ?
Ouais, il a dit quoi ?
Non, mais ça te déconne, tu as entendu ce qu'il a dit là ?
Il y a toujours une nouvelle femme, c'est ça ?
Non, mais attention, mais tu as pas entendu ce qu'il a dit là ?
Mais ça, je connais, Eric, attention.
Mais oui.
Bon, allez, sans transition, on change de musique, c'est beaucoup plus beau. Hommage.
Le professionnel Belmondo.
Royal Canin.
Pour moi, c'est Royal Canin. Ouais.
Eric, on a
affaire
à un cul, Eric, c'est terrible.
Ennio Morricone,
un grand artiste décédé aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Ennio Morricone.
Pour moi, c'est la pub des nuls.
Grand compositeur. J'ai pas
Il y a eu un niveau.
Grand compositeur, producteur de musique de film italien. Bon, vous reconnaissez le professionnel Belmondo. C'est lui qui a composé cette musique. Ennio Morricone, grand passionné de foot, supporter de l'AS Rome. Un jour, l'AS Rome lui propose de composer l'hymne du club. La grande classe, il a dit non, moi je trouve l'hymne très bien, ça n'a rien que je fasse un hymne, on garde l'hymne de l'AS Rome. Donc la grande classe. En revanche, il a déjà composé une musique pour le foot qui est passée dans le monde entier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On écoute.
Coupe du monde 90, Mexique.
78 pour la sélection, non?
L'hymne de la Coupe du monde de foot 78 en Argentine.
Ouais. L'hymne pour l'équipe italienne, non?
Non, l'hymne de la Coupe du Monde.
L'hymne de la Coupe du Monde.
Carrément, justement, Eric, interprété par l'Orchestre Municipal Symphonique de Buenos Aires. Coupe du Monde controversée en 78.
Ah, dictature.
Voilà, avec un régime dictatorial. Il s'est justifié à l'époque, Morricone, enfin même récemment. Il en a parlé, il a dit « Moi, c'est mon label qui m'a demandé de faire cette musique. C'était purement commercial, je l'assume.
Bah, » C'est pas sa meilleure musique, hein. Sur les 500 musiques qu'il a faites, c'est quand même pas sa meilleure musique.
Voilà, par exemple, la plus belle, je le dis, je le répète, il était une fois la Révolution.
Il était une fois la Révolution. Bon, là, sur
la brute de truand, c'est quand même énorme.
C'est pas mal aussi, supporter de la SP.
Je suis assez d'accord avec toi, Eric.
T'imagines Francky dans un rôle de cow-boy?
D'ailleurs, amusez-vous à revoir ces films de Sergio Leone qui sont merveilleux. Ouais. Que ce soit, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois.
C'est ça les Western Spaghetti, hein?
C'était les Western Spaghetti, exactement. Il était une fois la Révolution ou il était une fois en Amérique.
Ouais, c'est magnifique.
Merveilleux.
De bon la peut-être, j'ai dû le voir 5 fois.
Il a fallu attendre la dernière semaine pour apprendre des trucs.
Un petit miracle qui va peut-être énerver tout le monde. Miracle! Hier, lors d'un match de foot, Villarreal-Barça, Messi a fait une passe à Griezmann. Griezmann qui a marqué un but. Et sur Bein Sport, Omar Da Fonseca, je sais que ça t'a énervé, Eric, c'est lâché.
Messi maintenant, Messi derrière, Griezmann, le ballon piqué, la merveille, d'Antoine Griezmann, quel but, quel golazo.
Après vous dites que lui, il ne veut pas qu'il joue, qu'il se change dans le même vestiaire, et je ne sais pas ce que vous me dites. Il s'en fiche, Louis. Ce qu'il veut, c'est faire jouer des gens qui peuvent entendre son football venu d'ailleurs.
Bon, on n'a pas tout compris, mais il était énervé, Omar Da Fonseca, suite à ce miracle.
Trop de maté,
c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'on n'en a jamais bu, nous, Eric. C'est pas pour nous, le maté.
On préfère la mauvaise, quand même.
On va pas faire des leçons sur ce qu'on dit après un but quand on est un peu en France, hein.
Et surtout sur ce que tu bois.
Non, c'est fini, j'ai une nouvelle vie là, du gars. Non, je déconne, c'est pas vrai.
Merci Adrien, à demain.
À demain les copains.
Le journal moyen. Bien. Eric, merci.
Ciao,
bonne soirée.
Salut, Eric.
Demain, c'est ma dernière avec du gars de l'histoire de l'humanité, du monde.
Prépare une surprise, un dossier.
Écoute, je vais lui envoyer une jolie photo là. Je vais sous la douche, je lui envoie la photo directe.
Non, mais sinon, alors d'habitude, on le fait à 19h30, mais demain, on refera 2-3 débats historiques avec toi, Eric, quand même. Parce qu'il y en a qui tiennent avec toi le centre de formation de l'OM,
par exemple. Ah, mais non, mais là, il pourrait venir. Il y en a 6 qui ont signé pro.
On verra demain.
Je crois qu'il y en a 7 à Bordeaux. 6 à Marseille, 7 à Bordeaux.
Oui. À demain, Eric.
Ciao, les gars.
Franck, il reste avec nous. Laure Le Payeur arrive également pour parler justement de ces jeunes. Est-ce que la Ligue 1 va trop loin dans certaines gestions de cas? 32-16 pour en parler. On reviendra également sur Neymar et le chambrage dans le foot. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Team Dugas.